Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous, amis auditeurs, amis auditrices. Bonsoir, merci d'écouter Aligre FM sur le 93.1. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Version originale. Nous parlerons de politique et de théâtre. Le climat politique aujourd'hui en France est un moment à saisir pour évoquer les rapports du théâtre à la politique. À quoi bon le théâtre? C'est par cette question qu'Olivier Neveu commence son livre Brecht et les mauvais temps nouveaux. Brecht et les mauvais temps nouveaux paraît chez La Fabrique Éditions. Dans cet ouvrage, Olivier Neveu explore les rapports qu'entretiennent la politique et le théâtre. Dans cette étude, la politique bien sûr est communiste. L'œuvre du dramaturge, metteur en scène, théoricien et poète Bertolt Brecht, marxiste, antifasciste, fournit de solides réflexions et des outils intellectuels pour intervenir dans la situation actuelle. Bonsoir Olivier Neveu.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM, Olivier Neveu. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et d'esthétique du théâtre à l'École normale supérieure de Lyon et membre de l'unité mixte de recherche 5317, donc IHRIM, qui signifie Institut d'histoire, des représentations et des idées dans les modernités. Olivier Neveu, vous soulignez qu'à l'égard de l'œuvre de Bertolt Brecht, vous avez des sentiments mêlés. On peut travailler sur un auteur sans se sentir obligé d'être son obligé, comme vous l'écrivez. Vous n'êtes pas un érudit de Brecht. Vous n'en avez pas une connaissance exhaustive. Vous précisez que vous n'entendez pas produire de nouvelles connaissances sur Bertolt Brecht. Dans ce livre, vous l'abordez à partir des enjeux politiques contemporains qui se posent au théâtre. Je vous cite, « Dans la supposition que les façons dont il s'est saisi des mauvais temps nouveaux, qui furent les siens, peuvent éclairer la manière d'appréhender les mauvais temps nouveaux qui sont les nôtres. » Brecht a donc fait des suggestions. Vous soulignez, je vous cite, « Dès lors qu'il est question de politique au théâtre, on peut faire avec, on peut évidemment faire contre Brecht, difficile de faire sans, c'est-à-dire d'en ignorer le legs que l'on peut, comme tout legs, gaspiller, refuser, détourner. » D'abord, Olivier Neveu, dans votre livre, il est question de théâtre public. Rappelez-vous ce que vous entendez par théâtre public et pourquoi cet intérêt exclusif ?
Alors c'est un intérêt exclusif un peu élargi puisque ce qui m'intéresse c'est le théâtre public ou le théâtre qui devrait être public, c'est-à-dire qui devrait bénéficier d'argent public et être pensé à l'égal d'un service public. Le théâtre public c'est un théâtre qui n'est pas sous condition de la rentabilité, qui est né à l'issue de bagarres pour en démocratiser et l'accès et la possibilité d'exercice. Et donc le théâtre public n'ayant pas normalement de vocation à la rentabilité est un espace de liberté. Alors c'est un espace de liberté qui aujourd'hui est considérablement rétréci, attaqué comme le sont à peu près tous les services publics aujourd'hui. On pourra y revenir. Mais donc ça n'est pas un intérêt exclusif pour le théâtre public puisqu'il y a énormément de pièces, d'œuvres qui m'intéressent, qui devraient pour le coup relever du service public du théâtre et qui n'y ont pas place parce que les financements ces dernières années se sont encore une fois considérablement réduits.
Alors, je suis désolé, la connexion que nous avons n'est pas très bonne, Olivier, mais on va quand même essayer de poursuivre notre entretien car effectivement le sujet est passionnant. Alors, le théâtre subit ce que le service public subit, donc c'est ce que vous dites, il est vicié par des années d'attaque et de dégradation. Aujourd'hui, avant donc d'entrer dans la réflexion et de ce que est-ce que Bertolt Brecht peut nous inspirer dans son œuvre théâtrale, aujourd'hui, quelle fonction l'État ou le marché impose-t-il au théâtre?
Alors c'est compliqué de répondre d'une manière univoque, même s'il y a quand même des très très grandes tendances. Juste avant de répondre à votre question, je voudrais dire que cette question est très bienvenue dans l'époque dans laquelle nous sommes et dans le moment politique particulier dans lequel nous sommes, puisqu'il y a des attaques et des agressions redoublées depuis quelques semaines contre le service public de la culture, qui sont des attaques qui proviennent ces dernières années, elles provenaient essentiellement de collectivités locales, etc. des territoires. Aujourd'hui, même l'État s'y met, on le sait, hein, l'argument c'est la dette de l'État, et on assiste depuis quelques semaines à des attaques sans précédent et à un mouvement et à un plan social maquillé, dissimulé, mais qui est un plan social. On n'arrête pas de croiser, je n'arrête pas de croiser des artistes qui pensent abandonner, qui sont à deux doigts de perdre leurs droits au système spécifique d'assurance chômage qui s'appelle qui concerne les intermittents du spectacle, etc., etc. Vous avez des productions aujourd'hui qui s'effondrent, vous avez des festivals qui sont menacés. Donc on est dans un moment très très particulier d'attaque. Et je ne sais pas bien comment. Alors on voit bien qu'il y a des mobilisations qui sont en cours. Il y a encore quelques jours, un certain nombre d'artistes, de techniciens se sont retrouvés. Il y a des mobilisations qui commencent à émerger. J'espère que l'été des festivals sera un été d'offensivité, de combativité face à ce qui arrive. Donc on est pris dans un moment politique où d'une certaine manière, l'art et la culture sont considérés comme étant totalement résiduels. Cette chose-là, elle n'est pas née il y a quelques semaines. Hein. Elle provient de loin. Mon hypothèse, c'est qu'elle provient du néolibéralisme et de l'intronisation du néolibéralisme dans la sphère politique. En France, ce sont les années Sarkozy, et ça n'a cessé de s'aggraver depuis avec Hollande et se radicaliser avec Macron. Il faudra quand même dire combien les 9 années de présidence Macron auront été délétères pour le milieu culturel, mais bon, plus largement évidemment pour tous les services publics. Depuis que le néolibéralisme s'est installé, on va dire, en tant qu'idéologie d'État, se pose une question, c'est-à-dire les néolibéraux ne comprennent pas pourquoi ils devraient financer la culture. Enfin, on avait auparavant une bourgeoisie esthète, plus cultivée, et même s'il fallait arracher des financements publics, elle avait en quelque sorte, bon, c'était le fruit d'un consensus à l'issue de la libération, elle avait la conscience que la culture et les arts, il y a une espèce de consensus entre guillemets républicain autour de la culture et des arts qui n'était pas non plus complètement clément. Il y avait des bagarres, il y avait des tentatives mais globalement il y avait une sorte de consensus. Le néolibéralisme arrivant, ce consensus ne marche plus puisque les néolibéraux, qui sont pris dans une quête effrénée de profit et les plus rapides possibles, c'est-à-dire sans aucune considération pour l'histoire et pour le temps futur, se demandent bien pourquoi ils devraient continuer à financer ce secteur qui est un secteur qui n'est pas directement bénéficiaire, rentable, bon, dont on ne voit pas tout de suite les effets. Il faut dire pour autant que, par ailleurs, on pourrait voir les effets hein, si les choses se regardaient avec un tout petit peu d'attention et de scrupule. Le travail que le théâtre public fait depuis des décennies à destination de la population, le travail que font les relations publiques dans les théâtres est tout à fait remarquable. Et ils le font dans des conditions qui sont toujours plus dégradées et avec un manque de moyens évident, mais comme le font les profs, comme on le fait dans les hôpitaux. Enfin, il y a quand même une tenue des services publics dans ce pays tout à fait remarquable, et on sait bien que cette tenue-là est niée. Et donc les néolibéraux, ne comprenant pas pourquoi ils devraient continuer à financer, ont essayé de trouver des réponses un peu viables pour eux, de leur point de vue, au financement du spectacle vivant, notamment du spectacle vivant. Bon, ils ont trouvé des fonctions, on va dire, à rentabilité immédiate, c'est-à-dire résoudre la fracture sociale que leur politique, pour le coup, s'attache à fabriquer, hein, créer du consensus, créer de la pacification, etc., etc. Il y a eu comme ça une espèce d'injonction de l'État et des tutelles à fabriquer un art immédiatement raccordé aux questions politiques, dont on pouvait voir tout de suite les bienfaits, on va dire, les bienfaits citoyens, les bienfaits. Bon. Et cette chose-là, qui pour le coup est marquée depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, de manière de plus en plus forte, avec une demande qui est faite aux artistes d'avoir des préoccupations sociales, sociétales, écologiques, etc., etc. Encore une fois, dans le même temps où les politiques publiques marquent l'inverse de ces préoccupations, ces choses-là ont croisé, me semble-t-il, en tout cas c'est une hypothèse que je fais, ont croisé un sentiment de... Enfin, l'intériorisation par les artistes et par un grand nombre d'artistes, un sentiment d'inutilité et d'impuissance dans cette société. Et depuis quelques années, dans un mouvement symétrique, on a vu un certain nombre d'artistes, de créateurs, de créatrices s'intéresser directement aux questions politiques, aussi pour se donner des raisons de continuer. C'est tellement difficile aujourd'hui d'arriver à monter une production, d'arriver à convaincre, de faire qu'elle soit jouée. Vous avez des semaines et des semaines de répétitions qui sont souvent très mal payées quand elles sont payées pour très très peu de représentation. Enfin bon, c'est vraiment des conditions difficiles de travail. Trouver une raison, on va dire, à la poursuite de cette activité, et beaucoup l'ont trouvé dans un engagement politique, on va dire, plus frontal, plus littéral. Et me semble-t-il, de part et d'autre, la question politique, alors sur un malentendu, évidemment, la politique des artistes dans un premier temps ne voulait pas dire la politique des tutelles et de l'État, se sont retrouvés dans une espèce de signifiant un peu flou, un peu flottant, qu'est le mot de politique qui est devenu en quelque sorte une sorte d'obligation pour tout artiste dans le théâtre public aujourd'hui de revendiquer que son travail est politique, à tel point qu'aujourd'hui on voit plus très bien ce que cela peut signifier.
Alors Olivier Neveu, venons à Brecht très directement, puisque c'est donc le l'objet de votre livre. Brecht refuse donc l'antagonisme entre politique et théâtre. Il met le théâtre au service de la politique au contact du théâtre. Sauf qu'il ne les confond pas. Il ne les confond pas, il ne les assimile pas. Pouvez-vous nous expliquer donc cet aspect des choses ?
Oui, alors, comme vous l'avez dit, ce travail sur Brecht n'est pas un travail d'érudit, même si j'ai essayé de lire le plus possible et je fréquente ses textes depuis très longtemps. Ça n'est pas une monographie sur Brecht. Ce qui m'a intéressé à propos de Brecht, c'est de continuer à réfléchir, parce que c'est mon travail depuis maintenant une vingtaine d'années, un peu plus même, de réfléchir à toutes les formes historiques et présentes d'articulation de la politique et du théâtre, sachant qu'il y a une longue histoire de ces articulations et de la pensée de ces articulations. Et Brecht est une des dates ou un des moments de cette articulation, et il me permet, me semble-t-il, de penser à nouveau frais, avec un nouvel éclairage en tout cas, la question de cette articulation. Alors articulation, justement, comme vous le dites, ça n'est pas une articulation fusion. C'est-à-dire que si je schématisais, je pourrais dire que on connaît quatre grands modes d'articulation entre l'art et la politique, ou entre le théâtre et la politique. Le premier grand mode, et qui a longtemps dominé, c'est l'idée de l'exclusion. C'est-à-dire que l'art et la politique s'excluraient, ils ne seraient pas du même ordre, et la politique se pervertirait ou se corromprait au contact de la politique. Donc un rapport, on va dire, d'exclusion, qui par ailleurs, à chaque fois que je vais nommer ces rapports, c'est pas du tout pour les invalider, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes à penser, effectivement, dans un moment où tout doit être politique, il y a une part éminemment subversive à refuser de jouer le jeu de la politique. Et on connaît des régimes autoritaires ou totalitaires où il y avait une obligation de l'art à faire de la politique, et la résistance à cela avait à voir avec, pour le coup, des vrais projets de subversion, en tout cas de refus, on va dire, des injonctions étatiques. Donc le premier grand modèle, c'est l'exclusion de l'une à l'autre. De l'une et de l'autre. Le second modèle, c'est celui de la fusion, et ça a donné l'art militant, ou un art propagandiste, qui là, encore une fois, il ne s'agit surtout pas de le discréditer, parce que parmi des œuvres qui sont effectivement très médiocres, très banales ou très glaçantes, il y a aussi des très grandes œuvres. Des très grandes œuvres qui sont nées des luttes, de la volonté de les porter, de la volonté de leur donner une forme. Et pour le coup, on a une histoire très glorieuse d'invention esthétique et formelle au service, pour le coup, des combats anticapitalistes, féministes et autres. Le troisième grand type de rapport, c'est un rapport, je pourrais dire, d'inspiration, où l'art va s'inspirer de la question, politique. Il va trouver dans la question politique une matière, on va dire, à la thématisation, et c'est probablement ce qui domine aujourd'hui très largement dans le champ du théâtre public, c'est-à-dire une politique thématisée. Et on le voit bien, les spectacles aujourd'hui parlent de quelque chose. Peut-être faut-il regretter qu'il fasse plus que qu'il parle plus qu'il ne forme quelque chose. En tout cas, il parle d'un certain nombre de sujets. Mais là aussi, il y a des grandes œuvres où la politique a été une source d'inspiration poétique, formelle ou dramaturgique pour les artistes. Et il me semble que Brecht propose un quatrième mode d'articulation, celui que vous avez énoncé, qui est celui de la contradiction. Et venir dire que la politique et le théâtre, ça n'est pas la même chose. Il y a des différences de nature, même si c'est difficile de savoir quelle est la nature de la politique et la nature du théâtre, mais qu'il y a des différences structurelles, de fonction, de forme, on voit bien, la politique par exemple exige à certains moments des espèces de précipitations, d'urgence, là où le théâtre est quand même, là aussi la plupart du temps, un art lent. Mais on pourrait dire à peu près l'inverse. Il y a des moments où le théâtre a besoin, la nécessité de jouer est immédiate et pour le coup la politique a à voir avec le repli parce qu'on n'a plus la force, parce qu'il faut retourner étudier, penser. Bref, il y a quelque chose qui entre le théâtre et la politique relève de la contradiction et je trouve que la puissance de Brecht, c'est de ne pas décider qu'à partir de cette contradiction on ne peut rien faire. C'est au contraire de dire qu'il faut habiter cette contradiction, venir s'installer dans cette contradiction et travailler le fait que la richesse de l'articulation entre le théâtre et la politique, c'est que précisément ça n'est pas la même chose. C'est que précisément ça n'a pas les mêmes temporalités, ça n'a pas les mêmes fonctions, ça ne vise pas les mêmes choses, ça n'a pas le même langage, les mêmes grammaires. Et je pourrais dire d'une certaine manière qu'il ne cesse de venir creuser et approfondir la contradiction des deux termes.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous êtes sur Aligre FM, dont on écoute version originale, en compagnie d'Olivier Neveu qui publie aux éditions La Fabrique Brecht et les mauvais temps nouveaux. Olivier Neveu, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de faits historiquement constatés qui vous paraissent importants, où le théâtre a pu mobiliser des forces, où des pièces de théâtre ont provoqué, pour reprendre votre formulation, la colère inquiète du pouvoir?
Alors il y en a beaucoup dans l'histoire, mais elles sont pas nécessairement spectaculaires. Mmh. C'est une chose que je trouve importante quand on réfléchit ou quand on essaye d'appréhender le champ théâtral et les effets du théâtre. Et pour le coup, je trouve que Brecht est aussi très heureux à cet endroit-là, c'est qu'il est dégrisant. Mmh. Et il appelle à ne pas trop se la raconter sur les potentialités de l'art dans la transformation sociale et dans la transformation immédiate du monde. Alors il y a des moments où, parce qu'une société est ce qu'elle est, parce qu'elle vit tel ou tel événement, alors vous avez des espèces de condensation artistique extrêmement forte. Évidemment, l'exemple le plus fameux, ce sont les années 20 en Russie, juste après la Révolution d'Octobre, qui ont été appelés et amenés par tout un ensemble d'avant-garde à partir des années du milieu des années 10, et les années 20, le début des années 20, entre 17 et 24 en Russie et puis RSS, ce sont des années de Antoine Vitesse, le metteur en scène, parlait de fièvre théâtrale, avec tout un ensemble d'expérimentation, de tentatives, mais aussi de fabrication d'œuvres, par ce qu'on appelle l'auto-activisme des œuvres de masse. Vous avez les expériences d'un metteur en scène important comme Meyerhold, qui pour le coup, précisément dans la foulée de ce que la Révolution d'Octobre a permis, se met à inventer des formes de théâtre et des formes de fabrication du jeu des acteurs ou des actrices. Bon, bref, vous avez un moment historique où l'histoire porte en quelque sorte le théâtre et le théâtre devient un lieu d'invention formelle extrêmement fort qui touche un nombre tout à fait conséquent. Alors, ça s'explique par la population russe, mais un nombre tout à fait conséquent de spectateurs. Vous avez d'autres moments où les expériences politiques vont être beaucoup plus microscopiques et pour autant elles n'en sont pas moins importantes. Vous avez tout un théâtre révolutionnaire de l'immigration dans les années 70 en France. Vous avez un livre vient de sortir il y a quelques semaines aux éditions justement de l'ENS, qui est un livre d'une historienne, Lorraine Wiss, qui travaille sur la scène féministe et qui met au jour la multiplication de formes de propositions scéniques spectaculaires qui regroupent alors parfois des publics très importants, parfois des publics moins conséquents. Mais elle montre comment, à partir des années 70, vous avez l'émergence de formes de lutte de théâtre et que ça produit, encore une fois, des formes, des dramaturgies, des modalités, des pensées de jeu. Donc, et je reste pour le coup là sur le théâtre militant des années 70 en France, mais j'aurais énormément d'exemples. Donc, il arrive que l'histoire permette ça. Et puis, il y a des moments où l'histoire ne le permet pas, où les œuvres sont beaucoup plus à contre-temps du temps historique, où elles sont elles volent contre le vent, on pourrait dire, et donc les effets qu'elles vont produire ne sont pas des effets que l'on peut caractériser comme immédiats. ça travaille de manière beaucoup plus subreptice et pour le coup en grande partie inquantifiable. Et c'est une chose que je trouve importante quand on lit l'œuvre de Brecht, c'est qu'elle nous permet de réfléchir, pas forcément dans les termes de Brecht, mais l'œuvre de Brecht nous permet de réfléchir à la façon dont on peut mesurer ou envisager que les effets politiques d'une œuvre sur la population.
Olivier Neveu, nous sommes donc des êtres du présent, c'est le présent qui nous définit. Je n'ai pas lu ce livre par hasard, je ne vous ai pas non plus invité par hasard à l'antenne d'Aligre FM. Je cite donc votre livre, page 41. La question du fascisme est brûlante. Les parades nocturnes, le score de l'extrême droite aux élections, la légitimation de leurs idées, son hégémonie dans la police, l'exemple de proches pays, la guerre idéologique, le cynisme de l'extrême-centre, etc. C'est probablement de cette menace qu'il faut partir. La perspective est claire, l'énergie est là, mais l'antifascisme est cruel cependant. Un espoir naît de l'enthousiasme collectif et tient en haleine quelque temps avant que se sapent les illusions et se meurtrissent les confiances. Olivier Neveu, qu'est-ce que... Alors la question, je n'hésite pas à vous la poser, que peut l'œuvre théâtrale de Brecht, enfin ses outils de réflexion, le théâtre, contre de telles menaces, contre le fait que, par exemple, peut-être que dans un an, la France sera dirigée par un gouvernement d'extrême droite.
Oui, bah, effectivement, le livre, il part en partie de là, de cette menace-là, et du fait que Brecht s'y est confronté très directement, puisque il va mettre en jeu le théâtre dans la lutte antifasciste début des années 30, fin des années 20, début des années 30, et puis il va devoir s'exiler très très vite après l'arrivée des nazis, et c'est une vie qui a porté pendant plus d'une grosse décennie l'exil lié à son antifascisme et à son communisme. La démarche c'était d'aller regarder, alors qu'est-ce que aujourd'hui le théâtre peut faire, je n'en sais rien, et je me garderai bien de dire aux artistes bien qu'ils doivent faire. Je ne suis pas là pour ça.
Et ce n'est pas du tout le propos du livre.
Non, vraiment pas, de se faire donneur de leçons. Mais en revanche, d'aller regarder ce que lui a pu faire et a pu proposer. Et il y a tout un ensemble de propositions qui, à être rapportées à aujourd'hui, me semble-t-il, sont utiles. Alors bien évidemment, il va faire des pièces qui sont parmi les pièces que l'on connaît aujourd'hui très fortement, que sont « Grande peur et misère du Troisième Reich », qui est une pièce qui est constituée de micro-scènes, de petites scènes, qui mettent en jeu, pour le coup, l'affect et les affects pris dans une société qui est prise par le nazisme, et notamment la peur, la méfiance, la suspicion permanente. C'est une pièce qui est créée dans les années 30 en France, en exil, après l'arrivée des fascistes au pouvoir. Et puis il y a cette autre très grande pièce que Brecht n'a pas montée de son vivant, qui s'appelle « La résistible ascension d'Arthur Houry ». C'est une pièce qu'il écrit un peu plus tardivement quand il est en exil et qu'il ne montrera pas parce que quand il rentre en Allemagne, la question est moins de résister au nazisme que de dénazifier une société. Et puis il est pris dans une autre conjoncture qui est celle de la guerre froide et de l'affrontement des blocs puisqu'il rentre en Allemagne de l'Est, même s'il n'y rentre pas tout de suite. La résistible ascension d'Arthur Houry, c'est une pièce importante parce que c'est une pièce qui, Arthur Houry donc, est un double en quelque sorte d'Hitler, même si et la force de la pièce de Brecht, c'est précisément de ne pas plaquer l'un sur l'autre. Il déplace, c'est une parabole, il déplace la montée de ce petit voyou qui va devenir un chef de gang, il la déplace à Chicago dans un gang de chou-fleurs, et la pièce est scandée régulièrement par un rappel historique de ce qui se passait en Allemagne dans la montée du nazisme. Bon, la question c'est moins celle de comment on fabrique un fasciste que à quel moment on peut résister à la montée d'un fasciste.
Parce que le titre est très important, c'est vrai que quand on va très vite, on entend irrésistible, il s'agit bien de la résistible ascension.
Tout à fait, tout à fait, et c'est très important de réfléchir au fait qu'elle était résistible. Après, il y a eu des résistances, mais elles n'ont pas suffi. Et ce qui intéresse Brecht, c'est précisément, on pourrait dire que c'est une ligne continue de son œuvre, de mettre en crise ou de mettre en jeu tout ce qui nous semble naturel. Et la montée naturalisée du fascisme est un problème. Le fascisme, il aurait pu tout à fait ne pas monter comme il est monté. Son ascension n'était absolument pas inéluctable. On pourrait dire que l'un des grands enjeux de l'œuvre de Brecht va être d'en finir avec la fatalité puisque face à la fatalité, on ne peut rien faire. Enfin, je veux dire, la fatalité, on est juste obligé de l'accepter ou de s'en lamenter. Là, ça n'est pas une chose fatale, c'est un processus politique, et il essaye de mettre au jour les complicités, les corruptions qui produisent ce système politique. Donc, on a ces grandes pièces paraboles qui sont des pièces explicatives qui permettent de penser d'une certaine manière la façon dont l'histoire se fabrique, dont l'histoire pourrait être fabriquée autrement, dont l'histoire est ouverte en quelque sorte à des alternatives. Bon, mais encore une fois, il y a quelque chose qui est très puissant. Quand Brecht revient après l'exil, il supprime le mot de résistible du titre parce que précisément il est bien obligé, en bon matérialiste, de prendre la mesure que ce résistible n'a pas été acté. Et puis il y a une troisième chose sur laquelle il me semble qu'il faut réfléchir. Il va monter des petites pièces, une pièce, pas des petites pièces, des pièces importantes, mais des pièces d'intervention directement sur la guerre d'Espagne et sur la question de l'impossible neutralité. Et puis il y a un dernier point que je trouve important et sur lequel je passe du temps dans le livre, que sont l'invention de ce qu'il appelle les pièces d'apprentissage. Ou la proposition des pièces d'apprentissage dans les années 20, fin des années 20, début des années 30, qui sont des courtes pièces qu'il crée en lien avec la population, et notamment des militants organisés amateurs du mouvement ouvrier, du mouvement communiste. Et ce sont des pièces, bon, je ne reviens pas parce que c'est un peu long d'expliquer comment elles se formalisent et comment elles existent, mais bon, il y a un certain nombre de pièces assez connues et pour le coup assez réprouvées, parce que ce sont des pièces qui tranchent, on va dire, dans l'humanisme dans lequel on pourrait baigner. Bon, je pense notamment à une pièce comme La Décision. Pour aller plus vite, ce qui m'intéresse dans ces pièces, c'est que Brecht, et il s'en explique dans un entretien, dans des confidences qu'il fait à Pierre Abraham, ce qui intéresse Brecht dans à ce moment-là, c'est de considérer que de la même manière que les danseurs doivent faire des assouplissements, des échauffements, de la même manière que des gymnastes doivent s'entraîner, des militants, eux aussi, doivent avoir une pratique. Et une pratique de quoi ? Une pratique de la dialectique. Quand l'horizon devient absolument morbide, quand il s'agit d'une lutte possiblement à mort avec l'ennemi, la dialectique est un recours, c'est-à-dire arriver à penser les opportunités du moment, arriver à prendre à rebours ou à revers l'ennemi ou l'adversaire, et donc pour ça, se former en quelque sorte à ce mode de pensée et à ce mode de pensée dynamique. Et donc il invente un ensemble de petites pièces qui ont cela comme projet, dit-il, et qui ont comme projet d'être jouées beaucoup plus que d'être vues. Et je trouve qu'il y a quelque chose là qui est important, qui s'adresse aussi, souvent on considère que, et on fait reproche au théâtre de s'adresser à des gens déjà convaincus, on va dire mais voilà, c'est toujours les mêmes qui vont au théâtre, et puis c'est toujours un public qui sait déjà le danger qu'est le fascisme. Je trouve que Brecht nous permet de penser aussi que un public déjà convaincu n'est pas un public forcément d'accord, et ça n'est pas forcément un public entraîné et chauffé, et que nous devrions avoir aussi le souci des militantes et des militants qui sont quand même le sel de la terre et qui vont le devenir d'autant plus que le fascisme va continuer à progresser. Et il y a, me semble-t-il, quelque chose là qui se dit d'un déplacement de l'adresse qui est tout à fait inspirant.
Olivier Neveu, votre livre, vous l'avez donc structuré en quatre grandes parties, tenir la distance, former le savoir, jouer le jeu, rendre le monde amical. Que pouvez-vous nous dire de cette... Pourquoi cette architecture ? Qu'est-ce qui vous a porté à travailler donc le Brecht, les mauvais temps nouveaux sous cette forme-là ?
En quelque sorte, bon, c'est un livre que j'ai mis longtemps... Donc j'ai mis longtemps à trouver la forme et l'objet, parce qu'en fait, c'est une... Ça fait une dizaine d'années que je tourne autour de cette œuvre, de cette question, et il m'est apparu, bon, encore une fois, je c'est pas un livre sur Brecht, c'est un livre à partir de Brecht pour la conjoncture qui est la nôtre.
C'est ça.
Il m'a paru intéressant, puisque mon guide dans le livre, c'est à la fois Brecht, mais c'est aussi le théâtre contemporain. C'est le livre d'un spectateur. Hein. Je vais au théâtre, j'essaie d'y aller le plus souvent possible, et je regarde des œuvres aussi à partir d'enjeux politiques et à partir de leur... Et donc, au croisement de ces deux questions, il m'a paru intéressant de relever, on va dire, quatre grandes épreuves de la politique et quatre grandes épreuves du rapport du théâtre à la politique. Le premier, on vient d'en parler, c'est la question du fascisme, mais plus profondément, c'est la question du temps et de la temporalité des effets de la politique. comment est-ce que le théâtre peut s'inscrire dans le temps de l'histoire et dans le temps de l'actualité, sans être immédiatement périmé ou sans être immédiatement trop solennel et complètement déconnecté des enjeux et des conjonctures. Donc le premier temps était la question du temps. La seconde grande épreuve était celle du savoir. Qu'est-ce que le théâtre nous permet de savoir, de connaître? Il y a quelque chose chez Brecht de l'ordre de la jouissance de l'apprentissage, mais avec les difficultés qu'il pose, c'est-à-dire si on essaye d'être honnête et qu'on n'en reste pas à d'immenses généralités un peu improductives, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de réellement aigu et de réellement, profond sur ce que nous vivons, sur la façon dont, par exemple, fonctionne le capitalisme. Moi, je suis très étonné de voir beaucoup de pièces qui dénoncent le capitalisme, et par exemple, l'absence totale de pensée de l'État, le plus souvent, l'État est absent des représentations, ce qui est quand même très problématique quand on sait la place que joue l'État, pour le coup, dans la reproduction du capitalisme et du néolibéralisme, même si d'ailleurs on est probablement en train d'assister en partie à une mutation de tout ça. Donc le deuxième temps, c'était d'interroger ce que le théâtre, le type de rapport que le théâtre entretient au savoir, à la connaissance, et comment il en fait du théâtre, et pas seulement des conférences performées, c'est-à-dire comment ça s'incarne. Le troisième temps était pour le coup une question délicate dans l'histoire du théâtre politique, c'était celle de mesurer les effets de ce théâtre-là, et les effets politiques. Ce que j'appelais jouer le jeu, c'est bon, comment on peut mesurer ce que ça produit, est-ce qu'on est vraiment sûr que ça produit ce que ça doit produire, et si ça ne produit pas ce que ça doit produire, puisque traditionnellement on a tendance à dire le théâtre politique ça doit produire des prises de conscience, bon, j'essaye de mettre un tout petit peu en crise ou en jeu ce fétichisme de la prise de conscience. Troisième temps, c'était d'interroger la question des effets. Pour, encore une fois, un peu grâce à Brecht, essayer de se raconter le moins possible d'histoire sur les effets que peut produire l'art. Et ça ne veut pas du tout dire, ne pas se raconter d'histoire, que l'art ne peut rien. Mais ça veut dire se demander un tout petit peu franchement et de manière la plus dégrisée possible, si tant est que ce soit possible, et après on est tous pris dans des fantasmes aussi, mais de se demander de la manière la plus rude possible, qu'est-ce que le théâtre peut, vraiment, dans la bagarre qui est... Bon, et de ne pas trop se mentir, ou de ne pas trop surévaluer, ou au contraire, de ne pas trop déprécier ses effets, et donc de reposer à nouveau frais la question des effets. Et puis le quatrième temps, qui est le temps du... On va dire, rendre le monde amical, qui est une formule de Brecht, l'amicalité, la nécessité de rendre le monde amical, c'est une tentative d'essayer de réfléchir la façon dont ces œuvres-là s'articulent à des publics différents, au public, et à la question notamment du théâtre populaire. Je crois que Brecht pose des questions à la fabrication du théâtre populaire, et comme c'est un grand dialecticien, précisément, il nous permet de déplacer nos regards et de fuir, on va dire, les espèces d'injonctions démagogues aujourd'hui autant que le goût de l'élitisme.
Olivier Neveu, vous le dites dans le livre et en vous écoutant également le constate, ce livre est le livre d'un spectateur. Récemment, dans ces derniers mois, avez-vous vu, assisté à des pièces de théâtre qui vous ont marqué et que vous pourriez nous suggérer? Encore une fois, en l'inscrivant dans les problématiques que vous avez, sur lesquelles on vient de s'étendre et qui font le sujet de votre livre.
Je peux prendre un exemple qui est le spectacle, la pièce tout à fait remarquable de Christelle Roeder, qui est une artiste libanaise, qui s'appelle « Silence, ça tourne ». Qui a joué plusieurs fois à Paris cette année, mais qui a été créé à Lyon et qui est une pièce sur la destruction par des petites milices phalangistes d'un camp de réfugiés palestiniens au Liban dans les années 70. Et c'est une pièce, elle est seule sur le plateau, et c'est une pièce que je trouve passionnante parce qu'elle est, on pourrait dire à vue de nez, qu'elle ressemble à beaucoup de pièces qu'on a aujourd'hui, qui sont des pièces de témoignages, des pièces documentaires. Il y a une espèce de très grand mouvement documentaire aujourd'hui au théâtre. Et je crois que ça n'est pas ça. C'est-à-dire que ça donne les codes de ça, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas d'abord parce qu'elle n'incarne pas. Elle se fait la messagère ou la restitutrice de témoignages, et que cette messagère ne prend pas leur place, qu'elle travaille aussi sur le creux, l'écart par rapport à l'archive. Et puis la deuxième chose que je trouve la plus flagrante dans la pièce, c'est qu'elle se bat contre, on pourrait dire, la sommation au pathos dans lequel le théâtre baigne aujourd'hui. Il y a chez Brecht un refus du pathos pour le pathos. Ça ne veut pas du tout dire un refus de l'émotion, mais l'idée quand même que quand on s'adresse à l'intelligence des gens, les émotions qui en naissent sont des émotions peut-être plus profondes et plus riches. Et il y a dans le spectacle de Christelle Röder une manière de ne pas aller chercher, elle pourrait, hein, parce qu'on le voit bien en étant, nous aujourd'hui, contemporains du génocide, de l'entreprise génocidaire à Gaza, on sent bien qu'on est tous évidemment très, très sensibles, enfin tous, hélas non, mais donc que ça bouleverse. Et elle pourrait tout à fait surenchérir sur ce bouleversement qui est déjà là au commencement. Et pas du tout. Il y a quelque chose de très froid, il y a quelque chose de très tenu, il y a quelque chose qui s'adresse à autre chose en nous que le petit être sensible qui passerait son moment un peu larmoyant et pourrait aller après boire sa bière plein de commisération et plein de tendresse pour le moment très beau qu'il y a vécu. Il y a quelque chose de beaucoup plus, encore une fois, tenu, pris dans la rigueur de ce qu'il y a à dire et du projet politique qui est derrière, qui, je crois, est le signe d'une immense confiance faite dans le public. Et à vrai dire, à chaque fois que le théâtre nous permet d'expérimenter d'autres types de rapports que les rapports infantilisants, que les rapports abrutissants, que les rapports maltraitants, dans lequel notamment le capital ne cesse de nous placer, je trouve qu'il se joue là quelque chose de politiquement passionnant.
Pour finir, Olivier Neveu, votre livre, je le souligne, porte une charge d'optimisme importante. Bien évidemment, il s'agit d'un optimisme informé, documenté, réfléchi. Malgré tout, puisque vous, encore une fois, le point de départ, ce sont des sujets liés à la politique qui nous préoccupent de façon lancinante aujourd'hui fortement. J'aimerais quand même que vous me disiez quel est aujourd'hui votre degré d'inquiétude par rapport à ça.
Il est maximal.
Ah,
il est maximal. Moi, je suis très sensible à une proposition que cite souvent une chorégraphe sur laquelle je reviens dans le livre, qui s'appelle Maggie Marin. Mmh. Et Maggie Marin a depuis une vingtaine d'années, inscrit son travail dans une formule de Walter Benjamin que lui-même avait emprunté à Pierre Naville. Et la formule de Benjamin, c'est organiser le pessimisme. Mmh. Je pourrais dire que je me reconnais assez là-dedans.
Merci beaucoup, Olivier Neveu. Je rappelle le titre de votre livre, publié chez La Fabrique Édition, Brecht et les mauvais temps nouveaux. Merci infiniment. Bonne soirée.
Merci.
Au revoir, Olivier.
Culture, société, création. En version originale, Patrick, Léon Émile. I'm
La musique de Jill Scott, on écoutait Golden. Je rappelle le sujet de notre émission de ce jour avec Olivier Neveu qui publie Brecht, il est mauvais temps nouveau aux éditions La Fabrique. Voilà, on a pu discuter en direct, qui était en direct de Lyon, on a pu discuter avec Olivier Neveu au sujet de son dernier ouvrage donc paru aux éditions La Fabrique. Un format plus court que d'habitude en raison justement de cet insert téléphonique à distance. Amis auditeurs et auditrices, merci de nous avoir suivis. À la réalisation technique ce soir, Jed Viang, merci beaucoup. Et donc, dans un instant, vous retrouvez Dancehall Reggae Vibes et à 22h30, Audiométrique. Passez un bon week-end, bonne semaine, à samedi prochain sur Aligre FM 93.1 pour une nouvelle édition de Version Originale. En attendant, mettez-vous au frais. À bientôt.
Version Originale. Patrick, Léon Émile. Yeah.
Waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitches, student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. Bet they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster sinister the corner hugger. Seeing this nigga shining and annoying me like a motherfucker. This buster on me, now he act like he don't know me. 44, my closest homie, kill cockroaches like Tony. Got Montana motors. You bought 100 different fluids. Yo, I had to smoke it. Pupils dilated like silver dollars. Now we know it. Call it devilish how I do biz. Fuck these niggas talking. I leave their thoughts on my shoestrings. What? Straight to that FNH is what I'm holding. A buster that we know got 50 bowls, bust it open. We came bandana up, divided up, now what's the quotient? I split with four niggas since I'm a go-getter. I think these suckers pussy, I'ma murk the whole litter. Told my girl to leave as soon as I hung up the phone with her. Man, I heard he robbed the robbers, look Freddy, a cold nigga. Got an ice maker for a heart, made nigga from the start. Life is like a movie, all I did was play my fucking part. Chefing up the crack, the heroin, the weed, out the car. I called it Fast Freddy's, I should own a fucking restaurant. Cause back when I was 12, threw some bells on the scale and I got a pager. We broke them down and started selling nickels to the neighbors. Eventually the penitentiary gon' see me later. Kiss my mama, told her if I died and it was part of nature. What?
The flesh, the Lambo powder outside, it's a stretch. My bitch half Mexican, Afghan, I'm blessed. From living tough times with rough levers, a gorgeous watch. A team on a dreadful level, yo. Yeah, we still getting money right. Long as the sun come out, I hold these money tight. Getting fresh, just cooling my bitch on my dick. But boo, yo, you live with your moms, just get a grip. Clip in my pocket, a rocket, I think of the dips. I need jewels and gems with rough flicks. Trips to Africa, shorty tear sex up. I'm out in Bombay, rebels here acting up. We real OG, 7500 of us. Up in the Sprinter bus, fussing, we need more heat.